Alors bonsoir messieurs, messieurs, dames. Merci donc d'être venus. On a respecté le quart d'heure bordelais là pour les éventuels retardataires. Je voudrais pas vous infliger un plan en trois parties, mais enfin, dans le temps qui m'est donné, je voudrais quand même commencer par présenter les grandes lignes de la pensée d'Ellul. Alors, pour ceux qui le connaissent, et à Bordeaux, c'est presque une injure, mais même à Bordeaux, on pourrait comme ça présenter Montaigne, Mauriac et Montesquieu. On a toujours des choses à apprendre. Et je crois aussi, il ne faut pas qu'on... C'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs avec notre association. C'est l'association Ellul, donc, écoutez, de ne pas toujours prêcher des convertis. Et ce qu'on espère, justement, c'est que ce type de conférence peut amener des jeunes qui découvrent la pensée d'Ellul ou qui ont besoin de se remettre dans le bain. Alors, les grandes lignes de sa pensée, je vais y venir. Ensuite, dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter un livre qui malheureusement n'est pas là. Je regrette que la librairie ne l'ait pas exposé ici, puisque c'est le fruit d'un colloque international et qui, je vais vous en parler, qui avait pour ambition... Donc vous avez des contributeurs à ce colloque qui sont dans la salle, qui avaient pour ambition de montrer toutes les facettes du travail d'Ellul, hein, notamment justement cette dimension internationale qu'on évoque souvent, et puis le caractère pluridisciplinaire. Donc ce livre, c'est Ellul, Penseur sans frontières, et Penseur sans frontières, c'est à deux niveaux, bien évidemment, au niveau de sa réputation, qui est souvent plus grande à l'étranger qu'en France, et puis surtout sans frontières de discipline. Peut-être que la responsable de la librairie en amènera un exemplaire tout à l'heure. Et puis dans un dernier temps, je voudrais vous présenter rapidement les principales thèses d'Ellul sur la propagande, et puis surtout ce qu'elles ont suscité après, c'est-à-dire montrer bien l'actualité de cette pensée, et dire quelques mots des différentes contributions qui ont alimenté cet ouvrage. Donc pour vraiment, dans un premier temps, Ellul en bref, donc son cadre général de pensée, et bien tout simplement donner ses dates, dire que, comme disent les étudiants, ses dates, c'est qu'il est né en 12, il est mort en 94, et puis il était historien de formation, c'était un agrégé de droit romain. Mais c'était quelqu'un qui était tout à fait engagé dans les combats intellectuels de son temps. Et il a, si on remonte à sa formation intellectuelle, il a représenté ce qu'on a pu appeler une tendance gasconne du personnalisme, avec son ami Bernard Charbonneau, qui a à peu près la même biographie, la même époque. Hein, il est né en 10, il est mort en 96, ça fait 10 ans, les deux étaient inséparables. Et ils ont été les précurseurs de l'écologie politique, en France du moins. Et dans ce mouvement personnaliste, qui était lui-même un mouvement minoritaire dans la société française, ils ont été minoritaires, eux-mêmes. Et ils représentaient la fraction la plus libertaire, la plus anticentralisatrice, la plus girondine, la plus européenne, la plus antiproductiviste de ce mouvement. Ce qu'on peut dire aussi, rapidement, c'est que, je vous parlais tout à l'heure de sa notoriété à l'étranger, le livre qui l'a fait connaître aux États-Unis, c'est la traduction de son grand livre, qui est son grand œuvre, qui est La technique ou l'enjeu du siècle. Hein, même s'il a réalisé une trilogie sur ce sujet, ça reste, du moins me semble-t-il, l'ouvrage de référence sur la technique. Ce livre a été traduit en 64. Et puis là, il a eu vraiment, des années 60 jusqu'au début des années 80, une grande notoriété sur les campus américains, en particulier, pas seulement là, mais en particulier dans les campus californiens. Et il existait à l'époque un moyen très simple de mesurer cette popularité. Eh bien, c'était de voir, jusque dans les années, enfin, tout ce que j'ai pu en connaître à cette époque-là, c'est-à-dire 78, 79, 80 encore, de voir le nombre d'étudiants qui venaient, d'étudiants américains. C'était facile à reconnaître, du moins au début des années, enfin, au milieu des années 70, parce que c'était les seuls qui portaient des sacs à dos. Les étudiants français ne portaient pas de sacs à dos à Sciences Po, et qui venaient spécialement pour écouter Ellul, hein, et pas pour les autres. Puisque j'étais à l'époque moniteur, c'est-à-dire une sorte de répétiteur des cours d'Ellul, ce qui était pour moi une ouverture d'esprit tout à fait intéressante. Ce qu'on peut dire de lui aussi, c'est qu'il a considéré que la technique, c'était le facteur explicatif, c'était la clé de notre modernité. Ce n'était pas le facteur économique, c'était la technique. Et pour lui, la technique, ce n'est pas la machine. Parce que dans ce cas-là, il n'était pas le premier à croire cela. La technique, ce n'est pas la machine, on va y venir. C'est à la fois plus simple et plus complexe. Dans le même sens, il a considéré qu'il ne fallait pas définir les sociétés modernes comme les sociétés du spectacle ou les sociétés de consommation ou... qu'est-ce qu'il y avait, société post-industrielle. Bon. Sans rentrer dans le détail, chacun de ces concepts lui semblait insatisfaisant. Et il a défini cette société, notre société encore aujourd'hui, comme une société technicienne. Pourquoi ? Parce que c'était la société qui plaçait la technique au cœur de, finalement, de ses objectifs. Bon. Et cette technique, comment est-ce qu'il la définissait ? Eh bien, il considérait que c'était finalement, non pas la machine, comme je vous le disais, mais c'était dans tous les domaines la recherche du moyen absolument le plus efficace. Hein ? Dans tous les domaines, la recherche du moyen absolument le plus efficace. Donc, avec cette définition extrêmement large, extrêmement extensive de la technique, ça nous montre bien que la technique, ce n'est pas un simple outil, ou en tout cas, ce n'est certainement pas une machine. Hein. Ça veut dire que toute la société va fonctionner autour de cet objectif. Et que ce critère, eh bien, on le retrouve, cette recherche d'efficacité, on le retrouve dans toutes les sociétés, qu'elles s'habillent d'habits idéologiques différents, qu'elles soient communistes... socialiste réel, libéral, capitaliste, tout ce que vous pouvez imaginer. Dans tous les cas, c'est la même chose. Hein. C'est cette recherche du moyen absolument le plus efficace. Autre élément de sa pensée sur ce terrain, c'est l'autonomie de la technique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la technique est pour lui un organisme qui se suffit à lui-même, qui est donc clos en partie, et qui est tourné vers ce qu'il appelle l'autodétermination, et qui n'a d'autre but que sa propre expansion. Et ce qui veut dire aussi que cette technique, eh bien, elle ne progresse pas en fonction d'un quelconque idéal, hein, d'un quelconque morale. Au contraire, c'est la technique elle-même qui devient la puissance légitimante. Et cette technique, selon lui, elle devient sa propre fin, sa propre finalité. Elle se suffit à elle-même. Et en fonction de ce principe, on va dire c'est bien, mais bien au sens moral, parce qu'on peut le faire. Hein, le simple fait que ça soit quelque chose de faisable devient un bien. Et tout ce qui est techniquement réalisable, et là il faut voir que, quand je parlais tout à l'heure de la technique au l'enjeu du siècle, il l'a écrit vers 45-46. Bon, il y a différentes moutures, ça a été publié en 54, et on voit très bien dans ce livre qu'il il fait directement référence au clonage, hein, et au clonage humain. Hein, il parle de ce qui paraît absolument aberrant à l'époque, puisqu'il, je me souviens même d'une de ses expressions, il parle de « hara humain ». Possible, hein, mais pas comme un scénario de science-fiction, quoi. Bon, on peut dire qu'avec ce qui est dit, On avance sur ce terrain-là, entre guillemets. Donc tout ce qui est techniquement réalisable est moralement souhaitable. C'est bien puisqu'on peut le faire. Et on finira par le faire. En dépit des commissions d'éthique, on finira, on y arrive. Et puisque on sait, par exemple, que pour le clonage, on peut l'interdire, en effet. Légalement, ça ne sera pas effectivement autorisé, mais ça sera fait. C'est déjà fait, hein, en partie. Autre argument, élu les présenter comme un ennemi de la technique, comme un adversaire de la technique. Qui, de son point de vue, est tout à fait absurde. On ne peut pas être contre la technique, elle est présente. Hein. Bon. Ce qu'il montre simplement, c'est que cette technique, elle est ambivalente. Ce n'est pas lui qui est ambivalent face à la technique. Hein. Pourquoi ? Parce que cette technique, mais il faut bien retenir cet argument quand on dit que Ellul est technophobe, il montre bien que la technique, elle libère autant qu'elle aliène. Elle fait bien les deux. Hein. Elle libère autant qu'elle aliène. Bon. Ça veut dire qu'elle crée des problèmes aussitôt qu'elle en résout. Et elle s'accroît d'elle-même par les solutions techniques qu'elle apporte. Tout progrès technique va se payer en effet secondaire. L'automobile, c'est un instrument merveilleux de liberté, et notamment pour ceux qui vivent dans des endroits reculés. C'est un élément de liberté, ça t'est présenté ainsi. Arrivé à un certain seuil, ça devient quelque chose, là aussi, de contre-intuitif, de contre-productif, de polluant, de néfaste. Bon. Le nucléaire, on peut considérer aussi, bon, en dépit, alors là, je partirais sur des discussions complexes, où mes compétences s'arrêteraient vite, mais on pourrait considérer que le nucléaire peut être plus propre, entre guillemets, que bon, certaines autres énergies fossiles. Bon, les effets secondaires sont évidents en termes de sécurité, en termes de type de société, en termes de traitement de déchets radioactifs, bien d'autres choses. Les OGM, les avocats des OGM ont des arguments extrêmement pertinents. Les effets secondaires, on les connaît. Encore plus près de nous, les incinérateurs. Bon, c'est fantastique aussi de créer des emballages, le plastique, c'est fantastique le plastique. Mais qui dit plastique dit traitement, retraitement de ces déchets. Ces déchets, c'est incinérateur. Incinérateur, c'est dioxine, etc., etc. Ce qu'Ellul conteste également, c'est la thèse de la neutralité de la technique. La technique n'est pas neutre. C'est nous qui pouvons être neutres face à elle. Et cet argument de la neutralité de la technique, c'est qu'en gros, c'est que tout dépendrait de l'utilisation qu'on en fait, bonne ou mauvaise. Cet argument peut trouver ses limites. Il existe un outil technique qui s'appelle la bombe atomique. Quelle est l'utilisation bonne de la bombe atomique ? Là aussi, c'est... Enfin, l'élément central, peut-être pour résumer vraiment très brièvement sa pensée, c'est de dire que son point de départ, c'est la liberté. C'est la liberté et l'étude de tous les périls qui la menacent. On ne comprend pas Ellul si on passe à côté de cette recherche, qui anime d'ailleurs l'autre versant de sa pensée, qui est à la fois indissociable, complémentaire, mais qui est séparée. Chez Ellul, le chrétien, et là il y a deux registres, il y a le versant théologique et puis il y a le versant séculier. Les deux sont complémentaires. Les livres se répondent l'un à l'autre, mais jamais de façon systématique. Son œuvre n'a pas été conçue ainsi. Mais il est vrai que le lecteur, qui a suffisamment de patience, peut, et puis vers la fin de sa vie, poussé par des personnes qu'il interviewait, il a fini par reconnaître justement ses voies de passage. Mais ça n'a pas été conçu comme cela. Alors il y a un débat, on pourrait d'ailleurs en parler, ça fait partie du colloque. J'espère que je finirai par avoir le livre Jacques Ellul, Penseur sans frontières, puisque c'était là, d'ailleurs là, un des aspects de la communication de Didier Nordon. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, ce livre-là, justement, je vais en dire quelques mots maintenant. Alors, ce livre-là, justement, je vais terminer, en tout cas je commençais par la fin, ce ne sont pas vraiment les actes d'un colloque, puisque ce sont des textes qui ont été retravaillés pour enlever justement toutes les scories du langage oral. Hein. Mais le but, et donc on terminait par Nordon, qui est mathématicien et qui justement se mettait dans une situation un peu d'extériorité, eh bien, ce livre était à la fois un hommage et un bilan. Et essayer de savoir la pertinence de la pensée d'Hellule une dizaine d'années après sa mort. Donc c'était un colloque international qui s'est tenu à Poitiers. Il aurait pu se tenir à Paris. Il est évident que Hellule n'est pas un produit régional, ou en tout cas pas seulement, hein, et qu'on se tromperait en voulant l'enfermer. C'est une pensée sans frontières, résolument dans tous les sens du terme. Donc nous avions comme conférencier, comme invité, un ami et disciple d'Ivan Illich, qui est architecte, philosophe, entre autres spécialités, qui venait du Mexique. Un Suisse, un Belge, des auteurs venant, des conférenciers venant du Canada, des États-Unis. Et puis, c'était un colloque pluridisciplinaire, puisque là, il était difficile, je crois, de faire plus. J'ai commencé par le mathématicien, mais c'est peut-être celui auquel on s'attend le moins. Mais il y avait bien évidemment historien, et un grand historien qui est ici parmi nous, des sociologues, des théologiens, des philosophes, des anthropologues, des juristes, des politistes, un plasticien. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est là ce soir, j'aurais souhaité, parce qu'Hellule a écrit également sur l'art contemporain. Bon. Très rapidement, pour vous laisser le temps de poser des questions, l'essentiel de ce qui a pu être dit. Exercice difficile, puisque il s'agit de vous résumer des propos qui occupe un chapitre, hein, et parfois des textes extrêmement denses. Le premier, c'est celui de Lucien Sfez, qui était sans doute l'invité le plus connu, qui est un spécialiste de la communication, qui fait autorité en la matière, pas seulement, hein, et qui avait intitulé son propos « Les stratégies paradoxales de Jacques Hellule ». Alors, il est évident que ce colloque aussi, intitulé « Libre examen d'une pensée sans frontières », eh bien, ce n'était pas la réunion de la secte des Helluliens. C'est-à-dire que j'y tiens, comme dans ces cahiers Hellule, j'y tiens personnellement, pardon de parler à la première personne, mais il est tout à fait vain de se transformer en société d'admiration mutuelle. Donc, le premier d'entre eux, Sfez, avait un point de vue extrêmement critique, tout en étant un de ceux qui, à la capitale, s'étaient référés à Hellule. Sfez montrait que, finalement, la démarche d'Hellule, globale, hein, l'ensemble de son œuvre, reposait sur un paradoxe, puisque Hellule, en bon pédagogue, voulait alerter son public. Et pour alerter son public, il avait tendance à noircir le tableau, à noircir la technique. Ce faisant, en noircissant la technique, en noircissant le tableau, eh bien, il risquait de désespérer son public. Et donc, finalement, il l'empêchait d'agir, puisqu'il désespérait. Sur un registre plus amical et plus en phase, Étienne Ravaza, historien présent ici, insistait, lui justement, sur l'autre versant, qui était l'espoir, qui est au cœur de la pensée d'Hellule, et qui est au cœur en tout cas de son registre, entre guillemets, théologique. Et il montrait que si on pouvait résumer le credo éluvien, et d'ailleurs je vais arrêter là sur la communication d'Étienne Ravasa puisqu'il est sur place et il dira ça mieux que moi, mais si on voulait résumer son credo, c'est de dire que Dieu est amour et qu'il est venu pour sauver tous les hommes sans exception. Alors là encore, quand on insiste sur le caractère calviniste de la pensée d'Ellul, on fait erreur. Ellul prône le salut universel, tous sauvés, tous, y compris Hitler, tous sauvés. Bon, il n'y a rien de plus optimiste, du moins pour les croyants. David Gill, qui a été était à Chicago avant de repartir en Californie, lui, sur le terrain de l'éthique, sur le terrain aussi de la philosophie morale, montrer que la caractéristique d'Ellul sur ce terrain est de toujours, non pas se préoccuper des grands débats théologiques abstraits, mais des problèmes éthiques concrets. C'est-à-dire comment un chrétien, finalement, doit vivre sa foi aujourd'hui, maintenant. Et ce qu'il montre, c'est que finalement, le chrétien se retrouve dans une situation bien décrite par Ellul, qui est une situation de tension permanente. Et le mot tension, on le trouve partout chez Ellul, sinon le mot l'idée. C'est-à-dire que cette tension, elle est très simple. C'est qu'à la fois, il est impossible de rendre ce monde moins pécheur, et en même temps, il est tout aussi impossible d'accepter ce monde tel qu'il est. Bah, donc, il faut faire quelque chose pour le changer. Un autre chapitre de Dujancourt montrait, toujours dans la veine à la fois du... Là, on est sur la jonction entre le droit et la théologie. Il montrait que le droit devait être pris aux chrétiens, devait être pris au sérieux par les chrétiens dans un esprit d'engagement et de responsabilité. Pourquoi ? Parce que nos sociétés... ont tendance à considérer le droit uniquement maintenant sous la forme de la règle du jeu. Un simple rapport de force, une règle du jeu, et non plus de la recherche de la justice au sens noble. Dans le prolongement du Dujancourt, Dukulu Favar, qui est une universitaire, une juriste, une avocate parisienne, montrer que le droit était devenu dans nos sociétés de plus en plus technicien. Et elle montrait qu'il y avait maintenant une primauté des règles de forme. Et que on assistait à un déplacement de la défense sur le terrain technique des procédures. Et ce déplacement de la défense sur ce terrain extrêmement technique, extrêmement technicien, eh bien, débouchait sur la quasi-impunité, finalement, des grands groupes, des grandes entreprises, voire des mafias. Pourquoi ? Parce que les plus puissants dans nos sociétés sont en mesure, eh bien, de se payer les services des meilleurs experts, et donc de contourner ces règles. Les meilleurs techniciens ne travaillent pas, entre guillemets, du bon côté, si on raisonne en termes moraux. Les meilleurs techniciens, généralement, en dépit, effectivement, on peut toujours trouver des exemples. Mais elle, cas par cas, qui suit bien d'ailleurs au passage, c'est une spécialiste de l'écomafia, de la criminalité dite d'argent. Donc, elle organisait d'ailleurs un colloque à ce propos. Sur le terrain juridique encore, et sur un autre terrain, Warusfel s'intéressait à l'ambivalence du droit des nouvelles technologies. Quand on parle des NTIC, là, des nouvelles techniques de l'information et de la communication, effectivement, on se trouve dans une situation un peu complexe, puisque, en tout cas un peu contradictoire, on voit très bien que ce droit, il est finalement écartelé entre deux choses, deux impératifs qui sont... exclusifs l'un de l'autre. D'un côté, il s'agit de favoriser l'innovation technique, la création, Et puis, de l'autre côté, on voit très bien que ce droit, on le voit avec les téléchargements de musique ou de films sur Internet, ce droit va essayer de restreindre, hein, il va essayer d'interdire certaines techniques. Très brièvement, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, en ce qui me concerne, je m'étais intéressé à la critique éluienne de la politique et du champ politique. Là encore, pour Ellul, en quelques mots, tous les régimes, comme je disais tout à l'heure, ce qui lui a été reproché en période de guerre froide, tous les régimes poursuivent des fins identiques, l'efficacité, la puissance. Et Ellul est célèbre pour avoir critiqué ce qu'il appelait l'illusion politique. Alors, l'illusion politique, on pourrait dire, dans ce cas-là, si Ellul nous demande de nous méfier de l'illusion politique, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il veut nous inciter à nous détourner de la politique. Pas du tout. Le message d'Ellul, c'est pas l'apolitisme. Ce qu'il veut, ce qu'il nous demande, c'est de réhabiliter la résistance personnelle face à l'État, puisque c'était vraiment, d'ailleurs, je dirais, à son époque, il est le contemporain de l'État fasciste, de l'État nazi, de l'État stalinien. Hein. Résistance face au Léviathan, face à l'État moderne, et face au pouvoir en général. Hein. Que ce pouvoir, d'ailleurs, aujourd'hui, soit représenté par ou la mondialisation, ou par les grandes firmes, par les multinationales ou autres. Et ce qu'il nous dit, c'est que exister dans ce domaine-là, dans ce champ politique, c'est résister. Et toujours, c'est son slogan d'origine, de base, qui a été repris, souvent d'ailleurs sans le citer, penser globalement, agir localement. Penser globalement, agir localement. C'est Ellul, ça. C'est lui, dès les années 30. Hein. Donc, ce n'est pas s'emparer du pouvoir. Ce n'est pas se présenter aux élections politiques. Ça, c'est pas Ellul. C'est d'autres qui, éventuellement, peuvent se réclamer d'Ellul, mais c'est pas Ellul. Vous ne trouverez jamais Ellul. Vous ne trouverez jamais dans l'œuvre d'Ellul une invitation à vous engager dans un parti politique. Donc tous ceux qui se réclament d'Ellul pour se présenter à des élections sont en contradiction avec le propos d'Ellul. Hein. En revanche, ce qu'il vous dit, c'est pas de déserter le champ politique, c'est d'être justement, d'y mettre des grains de sable, d'y mettre des actions ponctuelles, de groupes, par le biais des associations, hein, par le biais associatif, par le biais de réseaux. Et là aussi, par la volonté d'y mettre des éléments de tension pour résister à tout ce qui peut être, finalement, des tentatives d'intégration totalitaire, quelles qu'elles soient. Donc il nous demande d'être un petit peu des sentinelles. Et chez Ellul, s'il n'y a pas apolitisme, et là c'est certainement le chrétien qui parle, il y a cette invitation à être des brebis parmi des loups. Ou, dit d'une autre façon, il y a un refus chez lui de la part de violence qui se trouve dans toute forme de pouvoir politique. Et là encore, si on ne comprend pas ce refus, on ne comprend pas le rapport des élus aux politiques. Cela dit, faisant cela, il refuse, je dirais, de voir ce qui est consubstantiel au pouvoir politique, c'est-à-dire cette part de violence qui est toujours contenue dans la politique. Enfin, sur ce point, chez lui, il y a cette idée qui est vraiment centrale et qui nous éloigne de Machiavel et de tous les réalistes, c'est qu'on ne peut pas obtenir une société juste avec des moyens injustes. Donc on ne peut pas mentir, par exemple, éliminer l'adversaire, trahir un ami politique, mais c'est pour le bien. C'est pour le bien. C'est pour le bien suprême. Non. Non. Dès le départ, vous hypothéquez le résultat. Je vous ai dit qu'Ellul n'était pas pour l'apolitisme, d'autant moins qu'il a toujours prôné, depuis les années 30, un changement révolutionnaire. Et Liberté Crozon a consacré son chapitre à cette question, et avec une précision, la révolution chez Ellul, ce n'est pas la prise du pouvoir politique, ce n'est pas l'action de masse, ce n'est pas le grand soir. La révolution chez Ellul, justement, elle est indissociable de cette notion de non-puissance, de travail qu'on fait sur soi, sans violence. Et la non-puissance est quelque chose de beaucoup plus exigeant que la non-violence. Et je pense qu'on pourra y revenir dans la discussion. Ce que montre Liberté, c'est que pour Ellul, il n'existe pas de schéma prédéfini à cette révolution. Il n'y a pas de doctrine révolutionnaire, qu'elle soit marxiste, même libertaire et même chrétienne. Il y a une attitude qui est à réinventer par les hommes à chaque instant, à chaque moment historique. Alain Gras travaille, lui, sur, à partir d'Ellul, sur la décroissance. Et ce qu'il montre, c'est que ce thème de la décroissance, il est présent en filigrane dans la pensée d'Ellul à travers sa critique de la technique. Mais que Ellul a fait en quelque sorte l'impasse, non pas sur toutes les questions énergétiques, mais en tout cas sur une priorité accordée par nos sociétés à l'énergie thermique. Alain Gras nous dit que, finalement, toutes nos sociétés industrielles sont organisées autour du feu. Hein. Donc, finalement, de l'énergie fossile. Et que ces sociétés, parce qu'elles reposent sur la consommation d'énergie fossile, vont droit à la catastrophe. Et celui qui a parlé de catastrophe, eh bien, en disant qu'on allait à la catastrophe, n'était pourtant pas réputé pour un écologiste il y a encore quelque temps, encore l'est-il vraiment, c'est notre président national. Donc, tout le monde le dit, Ellul le disait depuis un certain temps. Et autre point, entre guillemets, aveugle de la critique d'Ellul, mais qui était là aussi en filigrane, c'était la question du management. On assisterait, selon D'Introneau, à une sorte de managérialisation du monde. Le management, c'est la technique d'organisation rationnelle qui correspond au stade actuel du développement du capitalisme. Hein. Bon. Et ce management, il a ses agents, il a ses outils, c'est l'évaluation, c'est les projets, son langage, c'est le Wall Street English, ses règles, ses mythes, etc. Et en réalité, ce qu'il demande, c'est un peu de déplacer la cible. Ellul s'en prenait à l'État. Il faudrait, selon lui, à l'époque de la mondialisation libérale, s'attaquer à la grande entreprise, à la grande firme. Un peu dans la logique de ce que faisait Ellul pour les nouveaux possédés. Jean Robert, qui était un ami d'Illich, montre le point commun et les divergences entre Ellul et Illich, à travers une sorte de dialogue imaginaire, et rappelle que Ellul a eu le mérite de montrer que la technique était un système, c'est-à-dire un ensemble interrelié d'éléments, qui font qu'à chaque fois qu'on touche à un élément, on touche à l'ensemble du système. Et bien évidemment qu'à chaque fois qu'on touche au système, ça rétroagit sur l'ensemble des éléments. Et il montre que, de son côté, ce n'est pas l'aspect systémique qui a été retenu par Illich. Au contraire, c'est beaucoup plus l'aspect de l'historicité de la technique. Et dire qu'effectivement, il y a une historicité de la technique, ça veut dire que s'il y a eu un début, qu'il place environ au 12e, il y aura une fin. Mais là où tous les deux se rejoignent, c'est dans les notions de non-puissance, dans la notion d'auto-limitation volontaire, et également dans la pratique de certaines vertus. Et Ellul pouvait, dans la logique effectivement écologiste, dans son travail de précurseur, avec Charbonneau dans les années 30, pouvait déjà remettre en cause. Dès les années 30, avant le rapport Meadows, qui avait fait grand bruit sur la croissance zéro dans les années 70, au début des années 70, Ellul avait remis en cause l'intérêt des modèles productivistes. On produit toujours plus, on consomme toujours plus, toujours cette espèce de fuite en avant. Donc bien évidemment que ceux qui se réclament de la décroissance, comme Latouche, sont. Hein. Et d'ailleurs, Latouche est un des collaborateurs des cahiers Ellul, se réclame de la pensée d'Ellul. Daniel Cérezuel a montré comment le catholique Illich, le protestant Ellul et l'agnostique Charbonneau se retrouvaient sur la notion d'incarnation. Et dans les trois cas, hein, trois registres différents, eh bien, ils ont tous les trois une conception de la liberté en opposition complète avec les approches philosophiques abstraites, spéculatives. La liberté pour ces auteurs, c'est quelque chose qui se vit dans la vie quotidienne, qui s'incarne. Qui s'incarne, c'est l'homme concret, c'est l'homme de chair. Hein. Et le reste, je dirais, bon, c'est la philosophie pour philosophe. Et la philosophie pour philosophe, ça ne les intéresse pas. Il y a des gens pour ça, il y a des profs pour ça, il y a l'histoire de la philosophie, mais ce n'est pas leur démarche. Hein. Et là, notamment, à l'ère des technosciences, eh bien, cette réflexion sur l'incarnation est tout à fait passionnante. Flippot, lui, a montré comment on pouvait se servir d'Ellul pour répondre à la critique que faisait Luc Ferry des écologistes. Comment on pouvait repenser le lien entre l'homme et son environnement naturel. Chabot, qui est un philosophe belge, un spécialiste de la philosophie de la technique, lui a montré pourquoi parmi les innombrables livres sur la technique, et surtout à cette époque, comment c'était au bout du compte, 50 ans après, le livre « La technique ou l'enjeu du siècle » qui avait gardé toute sa pertinence. Marline, dont on dira un mot tout à l'heure sur la propagande, qui est un Canadien anglophone, soulignait les apports d'Ellul sur la propagande, mais constatait certaines contradictions. Et sans entrer dans le détail, il montrait qu'il fallait, selon lui, examiner la propagande cas par cas, hein, et éviter, je dirais, d'en faire une théorie générale, globale, mais qu'en même temps, cette question de la propagande restait toujours d'actualité, c'est-à-dire que la propagande n'est pas une question qui est limitée au régime totalitaire ou encore quelque chose qui s'est arrêté avec Hitler, Staline ou Mao. André Vitalis, lui, démontait ce qu'il appelle le bluff du discours sur la société de l'information. Ellul parlait du bluff technologique. Vitalis parle du bluff de la société de l'information. Qui consiste à quoi ? Qui consiste à nous dire qu'il suffirait de réduire la fracture numérique, il suffirait de construire des autoroutes de l'information partout dans le monde, et puis on finirait par unifier la planète, et on finirait par la pacifier. Tous les problèmes seraient réglés par les autoroutes de l'information. Enfin, Pierre Garcia, je ne pense pas qu'il soit là, s'il est là, vite, au secours. J'aurais préféré qu'il dise quelques mots sur son... sa communication. C'est un plasticien et il formulait, à partir de l'Empire du non-sens, trois critiques majeures à l'art contemporain. Je ne peux pas résumer cette argumentation. Ce que je dois dire, c'est qu'à l'écouter et encore plus à le lire, ça a été pour moi la surprise. Je me suis dit que je pouvais encore être émerveillé par des textes sur Ellul, et en quelques mots, hein, et d'une façon maladroite, il nous dit qu'à force de cette prétention de l'art contemporain et des artistes contemporains à ne vouloir chercher à l'extérieur aucune valeur, hein, à rester, je dirais, dans une pratique auto-référencée. Eh bien, en résultat, en conséquence, cet art ne débouche sur, non seulement sur aucune valeur supérieure, dans l'art, ce que pouvait être l'art médiéval qui s'appuyait sur la religion, mais sur aucune valeur du tout, sur la négation de toute valeur et sur ce qu'Ellul appelait le non-sens. Hein. Il le fait de façon très performante, même si je dois confesser, entre guillemets, que je n'étais pas toujours d'accord, mais là, ce n'était pas sur ce livre-là, sur, notamment dans le bluff technologique, sur les jugements d'Ellul, notamment en matière de musique. Hein. Bon, mais là, c'est un autre débat. Hein. Didier Nordon se posait la question de savoir, question générale, peut-on lire sans trahir ? Est-ce qu'on peut lire un auteur sans le trahir ? Trop de fidélité, c'est du suivisme. L'interprétation désinvolte, on vient d'y faire référence, mais là, c'est pas un travail de penseur, c'est un travail tout simplement de... Allez, on va être gentil, d'acteurs politiques qui se servent des lules comme on se sert pas d'un instrument. Eh bien, l'interprétation désinvolte, c'est déloyal vis-à-vis d'un auteur, lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Et Nordon prêche un peu pour sa paroisse, puisque il nous dit, Ellul, moi, m'a été utile dans ma critique de la science, dans ma critique des mathématiques, mais la moitié de l'œuvre d'Ellul, ça ne m'intéresse pas, c'est la théologie, moi je suis agnostique, donc j'ai jamais lu un de ses livres. Ce faisant, j'ai trahi Ellul, puisque Ellul disait qu'il fallait, si possible, lire les deux. Mais, dit Nordon, finalement, Ellul nous demande aussi d'être libres, de penser par nous-mêmes. Donc, si il demande à ses lecteurs de penser par eux-mêmes, eh bien, finalement, en le trahissant, je lui ai été fidèle. Alors, il y a une réponse à cette pirouette, mais bon, on ne va pas le faire en l'absence de l'intéressé. Enfin, pour terminer, et vous laisser la parole, quelques mots sur la propagande d'Ellul. Quelques mots rapides. Ellul, sa grande distinction, c'est, en matière de propagande, la distinction entre la propagande politique, qui est la plus visible, celle qu'on connaît tous, et puis la propagande sociologique. La propagande politique, c'est la propagande des partis, de l'État, du gouvernement. Et puis, la propagande sociologique, c'est ce qu'on appellerait la socialisation. Et elle a pour caractéristique d'être beaucoup plus diffuse. On la repère moins, elle est moins voyante. Alors, ce qu'il est important de voir, c'est que il est tout à fait faux de croire que la première est réservée au passé et au régime totalitaire. On s'en rend compte avec la situation ouverte depuis la première guerre du Golfe, je dis bien la première, donc depuis 1991, et puis la suite, l'Afghanistan, l'Irak, pour citer que quelques exemples. Cette socialisation, eh bien évidemment, cette propagande sociologique, qui est plus diffuse, on la trouve dans nos démocraties, dites pluralistes, et elle ne se présente pas comme de la propagande. Là encore, à chaque fois qu'on lit Ellul sur ce thème, il faut savoir que ce qu'on nous présente sur un habillage new look, qui est la communication, eh bien, en réalité, tout ce qui est dit par Ellul sur la propagande peut parfaitement s'appliquer à la communication. Enfin, parfaitement. Les habits ont changé. Hein. Et cette propagande sociologique, eh bien, elle passe par la publicité, elle passe par les relations publiques, elle passe par le cinéma commercial. Cela dit, elle ne dit pas son nom. Et là encore, sans en tirer d'extrapolation, Cette propagande sociologique, il faut avoir en tête, bien évidemment, que dans le domaine de la publicité, on va crier en disant que la publicité a un domaine, a un contenu informatif. Hein. Bon, il faut savoir les enjeux que recouvre. Moi, je pense à deux chiffres qui m'ont été donnés, je dirais, par hasard. En France, 15 milliards, le marché de la publicité, c'est 15 milliards d'euros par an. 15 milliards d'euros par an, c'est 100 millions d'euros par an. Et deuxième chiffre, alors la publicité, il y avait une très très belle formule de Latouche, c'était en substance, hein, elle doit être ici, c'est de... Alors, je vais la retrouver puisque je ne fais pas confiance à ma mémoire. Et puis, il y a un deuxième chiffre que je vous donnais tout à l'heure pendant que je la retrouve. Latouche nous dit, la publicité est un moyen de vous rendre mécontent de ce que vous avez pour vous faire désirer ce que vous n'avez pas. Je trouve ça excellent, très, très simple. Un moyen de vous rendre mécontent de ce que vous avez, alors c'est vrai, de votre voiture, de votre machine à laver, de votre télévision, pour vous faire désirer ce que vous n'avez pas. Bon, il y a un deuxième chiffre, là encore, 89%, pour ne pas dire 90%, de la publicité diffusée durant les émissions destinées aux enfants, 89%, concerne des produits gras et sucrés. Donc 90%. Donc on fait un matraquage, dans un premier temps. En même temps, 90%, c'est pas rien. Hein. Donc on sait que quand un gosse regarde la télé, eh bien 90% de la pub qui est passée à intervalles réguliers va le matraquer pour l'inciter à manger des produits sucrés et gras. En même temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va mener une campagne, des campagnes, contre l'obésité. Et on va rendre les parents responsables. Comment? Vous laissez vos enfants regarder, alors on ne va pas dire forcément la télévision, mais donc il faudrait aller des parents. Donc c'est la responsabilité incombe aux parents. On ne remet pas en cause le système. On ne se pose pas la question de l'importance de ce marché publicitaire. Bon, pour que ça soit pertinent, je veux dire que j'ai eu la flemme de le faire, il faudrait effectivement comparer 15 milliards d'euros, ce marché mondial de la publicité en France, 15 milliards d'euros par an, effectivement il faudrait le comparer à d'autres chiffres. Enfin, nos sociétés fonctionnent effectivement sur ce modèle-là. Donc, ce que montre Ellul, c'est qu'effectivement, cette propagande, elle ne se limite pas au terrain politique. C'est une propagande de conformisation. C'est une propagande d'intégration. Ce que montre aussi Ellul, et puis je vais vous laisser, j'avais effectivement un propos beaucoup plus long sur la propagande, mais je préfère qu'on le traite comme ça dans la discussion, parce que ça va faire trois quarts d'heure. Ce qu'a montré Ellul, ce qui a beaucoup choqué, c'est que la première cible de la propagande, c'était les intellectuels. Et Ellul avait ce raisonnement extrêmement provocateur, consistant à dire que, finalement, plus on a de chaînes et pas de chaînes de télévision, plus on est sensible à leur manipulation. Et les intellectuels, qui sont, selon lui, pas nécessairement les mieux informés, mais qui sont les plus informés, seront les premières victimes de la propagande, parce qu'ils sont toujours à la recherche d'un credo, d'une vérité. Et je vous dirais qu'on ne comprend pas ce qu'on a appelé, depuis l'après-guerre, le comportement de nos intellectuels girouettes. Soit il faut tous les citer, ça serait injuste, hein, et si on n'en cite qu'un, bon, ça sera injuste pour les autres, hein. Tous ces intellectuels girouettes, d'ailleurs, ça ne leur a pas nui, hein, en termes éditorial, hein, en termes de public. Eh bien, on ne peut pas expliquer le fonctionnement de ces intellectuels girouettes si on n'a pas cela en tête. Ceux qui sont passés du pro-soviétisme, du pro-castrisme, à un moment donné, certains disaient qu'il fallait envoyer les pro-chinois en pro-Chine. Hein. Bon, ils ont fait, et puis après qu'ils sont convertis au charme du libéralisme sauvage. Eh bien, on ne comprend pas ces revirements si on n'a pas, justement, en tête cette idée que, bon, non seulement, effectivement, ils sont les premières victimes, mais il y a aussi, chez Ellul, cette idée qui déplaît, c'est que y a une complicité du propagandé. Et ce thème de la complicité du propagandiste avec le propagandé, ou plus exactement, le fait qu'il y a une part de servitude volontaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous achetons un journal. Eh bien, nous les exposons, quand nous regardons une émission de télévision, nous nous exposons à la propagande. Et que, je dirais que, pour Ellul, entre la crainte, entre la peur d'être manipulé, et puis l'envie d'être informé, eh bien, c'est finalement l'envie d'être informé qui l'emporte. Mais dans le même sens, l'argumentation libérale consistant à dire « mais de toute façon, il n'y a pas de propagande dans les démocraties ». Il n'y en a pas. Ça, c'est pour les régimes totalitaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une liberté de choix. Ils trouvent l'argumentation complètement absurde. C'est-à-dire que si vous êtes soumis à 10 propagandes contradictoires, eh bien, vous êtes libre. Bah, cette liberté, c'est un peu la liberté du boxeur. Il reçoit un coup venant de la gauche, il se reprend un coup venant sur la droite, et il peut s'en reprendre encore d'autres venant du centre. Qu'est-ce qu'il est ? Il est plus libre ou il est plus sonné ? Donc cet argument en disant, mais non, de toute façon, il y a une espèce de pluralité. Faites vos courses. On est effectivement dans une logique libérale. Il n'y a pas de propagande dans les démocraties. Ça, c'est le truc de papa. C'est pour les régimes totalitaires. Il n'y en a plus. On est libre. On choisit son journal. On choisit ses émissions de télévision. Eh bien, cette argumentation-là, je vous dis, quand on présente l'image du boxeur, on trouve effectivement cette argumentation dérisoire. Hein ? Ça reste de la propagande. Autrement dit, la propagande, elle n'est pas dans le contenu. C'est une question de manipulation. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, au nom de bonnes causes, faire de la propagande. Ça va rester de la propagande. Et ce que montre aussi Ellul, là, en complète contradiction avec les auteurs de son temps qui ont travaillé sur cette question, consistant à dire on peut faire de la propagande démocratique. En fait, c'est l'histoire de la pompe à eau. Tout dépend ce qu'on met dedans. L'histoire de la manivelle et de la pompe à eau. La propagande, si vous mettez dans les tuyaux de la propagande nazie, vous faites de la propagande nazie, mais l'instrument est neutre. Si vous mettez de la propagande démocratique, mais là tout va bien. Ça, c'est une thèse, c'est la thèse de Laswell pour les spécialistes, qui ne cite pas nommément, mais qui va être une thèse dominante et qu'il y a encore aujourd'hui pour nombre d'auteurs. Alors, c'est extrêmement rassurant. Cela dit, c'est faux. Et c'est au nom de cette idée d'ailleurs qu'on considère que la démocratie peut s'exporter. Clé en main, voire char en main. Et la démocratie, c'est un comportement. Donc, ce n'est pas transporter via des chars des bureaux de vote. C'est un comportement démocratique. Ça prend du temps, la démocratie. Ça suppose une éthique de la discussion, de la délibération, et certainement pas du conditionnement. Si vous... Je donne évidemment aucune référence directe dans mon propos, parce que je pense que c'est pas à moi de vous le faire, mais vous allez le faire tout de suite de vous-même. Si vous allez effectivement envahir un pays qui a été pendant des années sous le joug d'un dictateur sanguinaire, qui persécute les minorités politiques, ethniques, religieuses, tout ce que vous voulez, et que vous vous dites « nous, on est la plus grande démocratie du monde, on va leur amener la démocratie ». Et vous faites effectivement la propagande pour cette valeur démocratique. Qu'est-ce que vous faites ? Vous transformez un conditionnement par un autre. Je dirais l'outil utilisé, déjà, transformer la propagande en mythe, faire de la démocratie un mythe, c'est déjà la négation de la démocratie. Et on ne peut... faire de la propagande sur ce terrain-là que si on provoque les espèces de réactions conditionnées, motrices. Sinon, on ne fait pas de propagande. On joue justement sur des sentiments, sur des réactions, sur des sentiments, sur de l'émotion, et certainement pas sur de la réflexion, certainement pas sur la délibération. Donc, cette idée, là encore, je vous dis, qui est dominante chez une grande partie des spécialistes de la communication américaine. Laswell est le premier, puisqu'il publie en 27, le plus grand d'entre eux, mais ça continue. Je ne dirai pas de nom ici, mais ça continue, en gros. Alors le problème est réglé. On ne parle plus de propagande, on parle simplement de communication politique. Et donc le tour est joué. C'est beaucoup plus rassurant. Il y aurait enfin encore à dire sur le lien entre information et propagande. Là aussi, on dit que finalement l'information, c'est la clé de la démocratie. Et que l'information, c'est le domaine de la vérité, et puis la propagande, c'est le domaine du mensonge. Bah, Ellul montre que on peut faire, et que de plus en plus d'ailleurs, on fait de la propagande. Ça ne marche pas, la propagande avec des bobards. Hein, raconter, comme on l'a vu d'ailleurs, de façon assez comique, si on peut dire, là, cette fois pour la deuxième guerre du Golfe, que quand on avait le ministre de l'information, là qui pour le coup pouvait s'appeler ministre de la propagande irakien, en train de dire cette bande de chiens, on va les écraser, on les vaincra, et qu'ils étaient à une heure de portée de canon de Bagdad. Bon, ça, la propagande dans ce cas-là se discrédite immédiatement, et elle n'a de sens, je dirais, dans le cadre national, mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet, elle n'a même pas cette portée. Hein. Bon, donc là, c'est tout à fait, ça devient tout à fait dérisoire, hein, à ce niveau-là. Mais l'information, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle fournit la matière à la propagande. C'est-à-dire qu'elle apporte la matière première et elle crée des problèmes. À partir de l'opinion, justement, quand on dit, par exemple, là, la chose est tout à fait extraordinaire, ce que montre Ellul, et il l'a dit bien avant... avant Bourdieu, bien avant Bourdieu, puis il le disait en 52, il l'écrivait en 52, que l'opinion publique n'existe pas. Bah, en effet, l'opinion publique n'existe pas. Elle est créée par l'information, et elle est créée par les médias, et elle est créée par les sondeurs. Il y a quelques jours, j'entendais la chose suivante, 47% de Français, 47% de Français pensent que Nicolas Sarkozy doit ou peut rester place Beauvau jusqu'au début de la campagne présidentielle. 47%, 1 sur 2. Mais c'est extraordinaire de raconter ça. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que pour le coup, le matin, en se levant, vous avez un Français sur deux qui se dit « Voyons voir ». D'ailleurs, il y en a Sarkozy. Voyons voir, qu'est-ce que je vais faire? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Doit-il rester? Oui, ah oui, ça, il devrait rester. Oui, ministre de l'Intérieur, oui. Bon. Est-ce que vous pensez sérieusement? On a l'exemple type, c'est un parmi tant d'autres. Hein, un parmi tant d'autres. On a l'exemple type, c'est pas, il n'y a pas 50% de Français qui... Les gens sont gentils quand ils sont sondés. Ils sont sondés, ils savent le sondeur est payé pour le faire. C'est généralement un étudiant qui fait ça pour gagner de l'argent. Il est aimable, il est payé pour ça. Et vous répondez à cette question. Et cette question, c'est l'opinion. Vous ne vous êtes pas posé cette question. Mais vous répondez oui ou non. Bah oui, oui ou non. Et puis voilà, et on passe à autre chose. Hein, voilà. Y aurait bien d'autres choses, mais bon. Y aurait, oui, encore juste deux, trois choses dans ce dossier, hein, ou ce livre, qui est toujours construit un peu sur le même modèle. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce que je pouvais vous dire tout à l'heure, le premier chapitre est consacré au cyclone Katrina, et là encore, on ne dit pas que fait la... C'est Daniel Cérézel qui l'a écrit, on ne dit pas que fait la police, mais que fait le gouvernement. Et là, c'est une façon de montrer que à quoi conduit la négation de la nature, si on se contrefiche de l'histoire. Il y a déjà eu, en 1900, si ma mémoire est bonne, au même endroit, un cataclysme d'une importance considérable. On méconnaît l'histoire. On urbanise à outrance. On méconnaît la géographie, ce lieu. Hein, et on va mettre 10, 100 fois plus de population au même endroit. Eh bien, la nature se venge. La nature revient. Hein. Autre élément, sans détailler. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une complicité du propagandé. Ben, nous tous, l'information, elle est comment? L'information que nous recevons tous les jours, elle est catastrophiste au sens propre. Quand on ne nous parle pas de catastrophe naturelle, on nous parle d'attentats. On nous montre un monde extrêmement complexe. Que fait la propagande? Elle rassure en simplifiant. Et puis, elle nous désigne un bouc émissaire. Alors, ça change. C'était les communistes, les juifs, les Américains. Le réchauffement climatique, les Américains, etc., etc., etc. Donc, je veux dire qu'on est, tous, hein, je dirais, chaque fois qu'on achète un journal, qu'on regarde, on est tous. C'est un processus, effectivement, auquel il est difficile d'échapper. Pour terminer sur une note optimiste, alors donc, dans ce chapitre-là, enfin, dans ce livre-là, l'idée était de réunir donc, les meilleurs spécialistes de ce thème, Armand Matelard, Philippe Breton, André Vitalis, quelques autres, et également, bien sûr, de rééditer les grands articles d'Ellul sur ces questions, qui sont des articles du début des années 50.